Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Un séminaire gouvernemental va se tenir aujourd'hui pour réfléchir à la mise en œuvre des annonces faites par Emmanuel Macron jeudi dernier. Sur quel point espérez-vous avoir donc aujourd'hui, à l'occasion de ce séminaire, des précisions, des clarifications ?
Écoutez, on attendait du président de la République un plan Marshall sur l'isolation des logements. C'est un enjeu environnemental majeur. C'est le moyen de combattre la vie chère. C'est des centaines d'euros d'économiser par ménage, par maison, par an. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois d'artisans, de PME sur tous nos territoires, là où ça manque tellement d'activités. On attendait du président de la République la sanctuarisation des services publics, les maternités, les gares, les postes qui font que nos territoires restent vivants. On attendait la sanctuarisation des infrastructures vitales, les barrages hydroélectriques que ce gouvernement veut privatiser, les aéroports parce que ce sont des énergies vitales, c'est notre patrimoine commun. On n'a rien eu de tout ça. Alors, un séminaire gouvernemental, après un autre processus de concertation qui va amener un processus de consultation qui incontestablement entraînera du dialogue. Tout ça n'est pas très sérieux. Ce gouvernement, malheureusement, sur les enjeux essentiels de l'écologie, du climat, de la biodiversité, de la santé et évidemment de la justice sociale, reporte et finalement renonce.
Le Conseil citoyen annoncé, Conseil citoyen sur les questions environnementales, des citoyens tirés au sort qui seront chargés de réfléchir, de faire des propositions en matière de transition environnementale, ça n'est pas une bonne idée, ça, de faire participer finalement les citoyens ordinaires ?
C'est toujours une bonne idée de faire participer les citoyens ordinaires, mais vous vous rendez compte quand même que des millions de Français se sont investis dans le grand débat. Le président de la République, le gouvernement ont mis en scène ce grand débat et se sont mis en scène dans ce grand débat, mais en promettant beaucoup, en disant « la parole citoyenne va être entendue ». Et vous avez écouté comme moi la conférence de presse du président de la République. Les millions de contributions ont été totalement mises de côté. Vous aviez 500 000 de contributions sur l'environnement. Tout ça a été jeté à la poubelle. Donc il y a une forme de trahison permanente de la parole citoyenne. Et puis là, d'un seul coup, on va tirer au sort 150 personnes. On va leur dire tout ce que les gouvernements n'ont pas fait depuis 30 ans en matière d'écologie, c'est vous qui allez donner le « là », c'est vous qui allez donner le « cap ». En matière de climat, en matière de sortie de pesticides, en matière d'énergie renouvelable, en matière de pollution de l'air, les solutions, on les connaît. Simplement,
c'est un travail d'expert, ça n'est pas aux citoyens de faire des propositions.
Ah si, les citoyens peuvent faire des propositions, mais ce que je veux dire, c'est que on a eu le débat autour des enjeux de l'agriculture et de l'alimentation. Finalement, c'est le glyphosate et l'agro-industrie qui a gagné. On avait eu le grand débat autour de la loi de transition énergétique. C'est finalement décidé par le président de la République, le nucléaire qui a gagné. Donc à chaque fois, on fait participer les citoyens et les gouvernements n'ont pas le courage de s'attaquer aux lobbies, n'ont pas le courage de servir l'intérêt général et c'est de cette manière-là tout à fait regrettable.
Les experts de la biodiversité du monde entier vont se réunir à partir d'aujourd'hui à Paris pour une semaine. Il s'agit de faire le point, de dresser une espèce d'état des lieux sur l'état des écosystèmes. Est-ce que ce rendez-vous peut contribuer, selon vous, à une prise de conscience d'une urgence environnementale ?
Je crois que la prise de conscience, elle est là. Chacun s'aperçoit que de la disparition des insectes, très pratiquement, on le voit sur nos pare-brises quand on circule. Il y a 20 ans, 30 ans, vous rouliez l'été, c'était plein d'insectes. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Nos campagnes sont de plus en plus silencieuses parce qu'il n'y a plus d'oiseaux. On sait que nos terres deviennent beaucoup moins fertiles à cause des pesticides. Et puis, c'est la disparition massive des vertébrés partout, que ce soit sur Terre ou dans les océans. Donc je crois que la prise de conscience, elle est là. Là encore, ce qu'il faut, c'est le courage d'agir. Ça veut dire, on le sait aujourd'hui, sortir des pesticides. Nous proposons au niveau européen d'en sortir en 15 ans. Beaucoup, il y a même Paul François qui a gagner son procès contre Monsanto, qui a été malade des produits de Monsanto. Lui-même, sa ferme, qui était 240 hectares de céréales, il en est sorti des pesticides, il fait du bio, et économiquement, il vit mieux. Donc on a les moyens d'action. J'étais il y a quelques jours avec Alain Bougrain-Dubourg, le patron de la Ligue de protection des oiseaux, on était sur une réserve Natura 2000. Et ben, quand on protège les écosystèmes, la vie reprend, les animaux, même y compris ceux qui étaient menacés, ils arrivent à de nouveau grandir en population. Donc on sait quoi faire. Le problème, c'est qu'il faut avoir le courage de s'attaquer au lobby des pesticides, de l'agro-industrie. Il faut avoir le courage de maintenir nos espaces naturels et nos terres agricoles. Ça veut dire aussi, par exemple, ne pas accepter le projet Europa City de grande surface sur des terres agricoles. Ça veut dire refuser les projets de mines d'or en Guyane, parce que là, à chaque fois, ce sont nos écosystèmes qui trinquent.
Pour rester, Yannick Jadot, sur les questions des règlements climatiques, vous avez lancé l'idée d'un statut spécifique pour les réfugiés climatiques, ceux qui fuient leur pays en raison des dérèglements du climat. Il s'agirait d'un statut européen. Comment ferait-on pour savoir si un réfugié est effectivement climatique ou non, s'il a vraiment fui son pays pour des questions de climat?
Aujourd'hui, au niveau international, on sait que la grande majorité des personnes qui doivent se déplacent à cause de l'environnement. La cause environnementale est plus forte aujourd'hui, malheureusement, que la cause politique qui était au départ, qui définissait le statut de réfugié.
Mais la cause environnementale et la cause économique peuvent être étroitement liées.
Bien sûr, tout est lié. Tout est lié.
Quand vous avez un réfugié économique peut être en quelque sorte un réfugié climatique.
Regardez la crise politique, sociale, évidemment environnementale, alimentaire majeure autour du lac Tchad, par exemple. Ce sont des endroits où le dérèglement climatique, et y compris des pratiques agricoles, mais le dérèglement climatique est en train de faire disparaître des millions d'hectares de terres habitables. Et quand vous n'avez plus de terres habitables, vous faites quoi? Eh ben, vous vous déplacez. Alors, vous vous déplacez d'abord dans les pays, vous vous déplacez beaucoup dans la sous-région, et une part infime de ces déplacements se fait vers l'Europe. Et il va falloir créer un statut pour ces personnes, parce que nous sommes co-responsables. Quand nous voulons que l'Europe soit 100% renouvelable, l'eau, le vent, tout ça en matière d'énergie, c'est éviter le dérèglement climatique partout dans le monde. Quand on veut combattre le pillage des ressources, notamment en Afrique, c'est combattre aussi la fin des écosystèmes et de fait les migrations. Donc il faut traiter les causes à la source et puis donner un statut à ces personnes qui se déplacent parce qu'elles méritent notre protection.
Vous avez dit il y a quelques semaines que l'enjeu des élections européennes pour vous c'était l'écologie ou la barbarie. Il vient d'avoir des élections législatives en Espagne. Le parti populiste ou d'extrême droite, Vox, va faire son entrée au Parlement. Il fait à peu près 10% des voix. Il va avoir 23 ou 24 députés. Est-ce que c'est de ça que vous parliez?
Bien sûr, on a...
Mais c'est-à-dire qu'on a le choix entre l'extrême droite ou les écologistes? Et rien d'autre?
On a aujourd'hui un modèle dominant qui est un modèle ultralibéral, qui est prédateur sur l'environnement, qui organise la compétition de tous contre tous. Et ce modèle-là, aujourd'hui, il est le marchepied de la montée des populismes et des extrêmes droites. Organiser la prédation environnementale et la prédation sociale, ça construit aujourd'hui en Europe à l'extrême droite. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est une alternative positive, évidemment, à l'extrême droite. Et en remettant l'écologie au cœur de toutes nos politiques, je l'ai dit sur l'aménagement du territoire, je l'ai dit sur la création d'emplois, je l'ai dit sur la démocratie, l'écologie est le modèle de développement qui sera bienveillant. Et d'ailleurs, vous voyez bien, Vox, dont on parle aujourd'hui en Espagne, c'est qui ils font alliance en Andalousie déjà avec Ciudadanos. Ciudadanos, c'est le parti prétendument centriste qui va être l'allié d'En Marche au niveau européen. Donc vous voyez bien que ce système libéral, eh ben, il construit l'extrême droite et parfois il s'allie avec l'extrême droite.